éphémère, 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes donc le samedi 19 mars 2005 et comme tous les samedis nous ouvrons avec les magazines Supplément Week-end, BD, Cinéma, Télévision, puis à 13h les pages du sport, à partir de 15h que du mix avec Zarma Farai, ça c'est du reggae, 17h Vie d'ordure, ça c'est du punk pur et dur, 18h30 Clark Nova de la pop communiste, 20h Last Hétéro Experience de l'électro bien barré, 21h30 Liquid Sky de l'électro plus expérimental et à 23h Breakbeat Experience. Ça c'est la jungle et puis voilà hein. Non, qu'est-ce qu'il y a de rajouter à plus Omar?
On pourrait dire bonjour, salut Xavier.
Ah mince, merde, je l'ai pas dit.
Oh non. Mince, quelle andouille.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Et tout de suite, c'est le supplément week-end. Et je vous préviens, aujourd'hui, on a décidé de taper très fort. Ah bah oui, vous comprendrez encore d'émission.
Just another nigga that gotta get greased. So if you wanna talk shit, in order to avoid a fight, stay with the
Extrait de la bande originale du film Judgment Night, le titre du même groupe, voilà, excusez-moi, avec la bande son, si je me trompe, donc c'était Biohazard et Onyx, donc c'était un film d'action, si je puis dire, hein, avec deux flics dans les fins fonds les plus crades de LA, et cela c'était 20 ans après John Carpenter, dont on va parler tout à l'heure. Donc pour information, donc cette bande son regroupe à chaque fois sur chaque morceau un groupe de heavy metal et un groupe de rap. Ça avait été l'énorme découverte en 91. Donc voilà. Donc oui, on va parler de John Carpenter.
Oui, il y a des chances. Quand on vous en parle pendant pas mal de temps aujourd'hui.
C'est un peu idiot parce que le film a quitté l'affiche.
Oui, on va vous parler d'un film qui n'est plus à l'affiche, effectivement.
Ça s'appelle les hasards malheureux de la programmation. Ceci dit, on va peut-être commencer en attendant l'arrivée du sport qui lui est concerné au premier chef. On va commencer par la revue de presse.
Enfin, quand on parlait de Carpenter, on va rester dans le cinéma avec le premier 337e numéro de ce mois-ci avec Will Smith en couverture qui pose avec une jolie rose.
Oh, bon, ça, c'est joli. Après la boxe, la rose.
Voilà, c'est trop beau. Hein. C'est à l'occasion de la sortie évidemment du film Hitch. Donc, à l'intérieur de ce numéro, on aura une longue interview extrêmement intéressante de Clint Eastwood à l'occasion de la sortie de son film Million Dollar Baby qui a trusté pas mal d'Oscars à Hollywood, film, meilleur réalisateur, meilleure actrice. 8 pages pour ce réalisateur d'exception qui a quand même passé les 70 ans. Chapeau.
Oui, ça le voilà. Fait.
Et alors quand on salue l'arrivée du sport chez Miss Hawaiian, bravo.
Alors là, il bat tout. Bravo.
On pourra aussi trouver dans Première un article qui s'appelle Petite conversation entre stars où le magazine a réuni des acteurs pour parler de leur métier. Les acteurs, c'est pas n'importe qui. Hilary Swank, Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Paul Giamatti et Annette Bening. Voilà, tout ça c'est dans Première.
C'est pas des acteurs, c'est gravure de mode.
Voilà. Oui. Ciné Live également, numéro 88, spécial King Kong en direct un direct du plateau néo-zélandais de Peter Jackson qui, après avoir passé 8 ans de sa vie sur le Seigneur des Anneaux, est resté en Nouvelle-Zélande pour donner sa version en reméquant le classique des années 30. Les premières photos, les premières images de l'atelier Weta Workshop qui a fait les premières esquisses du film et une interview du maître et un petit reportage sympa. Voilà, et puis également, on vous en reparlera tout à l'heure, mais il y a un petit dossier extrêmement intéressant aussi sur le film Assaut. L'original de Carpenter de 76. Mais voilà. Ça, on vous en reparlera tout à l'heure.
Oui, c'est donc ce dont on souhaitait causer tout à l'heure. Moi, je continue la revue de presse avec Animeland, donc du mois de mars, je sais, avec beaucoup de retard. Ça, je n'y peux rien. Ça arrive des fois, mauvais karma et tout, ce que vous voulez. Enfin bon, Animeland, le premier magazine de l'animation et du manga, qui vient d'arrêter la publication de sa revue sœur consacrée au manga, malheureusement, qui était loin d'être inintéressante. Bon, tant pis, voilà. Le Animeland numéro 109 consacre une couverture à l'une des héroïnes peu connues du grand public des dessins animés. Français, ouais. C'est-à-dire donc de Go Nagai, qui est le créateur de Goldorak hein, aussi, et de plein d'histoires de robots qui combattent des grands méchants pas beaux, etc. Là, c'est
Greg
carrément.
Bazinger, etc.
Voilà, donc là, il s'agit de Cutie Honey. Si dans le genre, je sais pas comment dire, Cutie Honey, vous le résumez, d'abord, c'est à l'occasion de la sortie du film live par Anno Hideaki, qui est réalisateur chez Gainax, s'il vous plaît, entre autres de Neo Genesis Evangelion, mais il a pas fait que ça, loin de là.
Ouais, il a fait Ultraman aussi.
Ouais, bon. donc d'après le personnage de Go Nagai, où Cutie Honey, c'est une fille, une working girl assez jeune, assez mignonne, et il est passé de l'autre côté, d'accord, il fait coucou et puis hop il repart, enfin dans le genre je suis une fille, je suis jolie, et c'est donc le principe des magical girls, c'est-à-dire je me transforme en bourré d'amour et prête à
d'autres
combattre
choses.
Le mal. Voilà. Donc face à une super méchante qui s'appelle Sister G, la puissance du bustier 95 à la Russe Meyer et de la petite culotte. Je rappelle quand même que l'équipe, pour ceux qui ne le savent pas, donc l'équipe de Gainax est fondée autour d'un dessin animé où il parodiait le phénomène de otaku dont on a parlé la semaine dernière, qui s'appelait Otaku no Video. Donc 20 ans après, ils servent justement les fans qu'ils ont eux-mêmes contribué à massacrer royalement. C'est-à-dire, on fait un dessin animé avec une fille qui est déjà une pop star, idole, avec vraiment deux gros avantages que l'on fait galoper dans la rue en petite culotte et que l'on transforme à tout va, et si possible en contre-champ, mais pas toujours. Bref, visiblement, ça n'a pas du tout plu aux chroniqueurs. Pardon. Ah, je vérifie. Ouais, Meko. Meko, alors quand ça se finit en ko chez les japonais, ça veut dire que c'est une fille. Donc chroniqueuse, alors, excusez-moi. Bref, c'est l'occasion d'un gros dossier sur les femmes romo, Masamune Shiro, Metropolis, à la fois dans le dessin animé, mais aussi dans la science-fiction en général. Bref, c'est le fantasme du lectorat masculin de la science-fiction. On a aussi droit à une double page sur l'animation des marionnettes pour la sortie de Team America, évidemment, des auteurs donc de South Park, mais avec, mais aussi avec l'interview de Renaud Carland, je vais y arriver, pour un film qui est sorti en février dernier et qui est passé totalement inaperçu dans les cinémas d'art et essai, Le fil de la vie. Et aussi un dossier sur l'adaptation des super-héros de bande dessinée vers le dessin animé, avec notamment, évidemment, il est question de Batman,
ouais,
et deux séries qui vont arriver en France. On a parlé notamment de Monster, qui est une bande dessinée italienne qui est publiée en France par Soleil et qui dont les droits ont été rachetés par Disney,
ouais,
qui va arriver en septembre normalement sur France 3, et aussi de Raon qui va être adapté en dessin animé. Ça c'était annoncé depuis un bail.
Ouais, en jeu vidéo et au cinéma, par un gars qu'on aime bien ici, Christophe Gans.
Voilà. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Enfin bon, cutillonner, ouais. Ouais, c'est vraiment pour les onanismes, les gamins en manque. Ce que vous voulez. Heureusement, c'est pas encore dispo en France pour le film en lui-même, mais je crois qu'il y a eu des OAV, des dessins animés qui.
Pour que tu en aies, on me fait signer en régie qu'il y a.
Non, on te fait pas signer en régie, on te fait signe avec un radiospectateur qui est venu au studio. Donc, voilà, s'il te plaît, tu prends le micro qui est devant toi et tu parles.
Oui, c'était juste pour préciser que Cutillonner.
Je te présente d'abord.
Désolé.
Voilà, on présente
Manu. Manu, qui n'a jamais fait de radio. Et ça,
quel âge, s'il vous plaît?
25 ans.
D'accord, ok. Donc, vas-y.
Alors, la petite précision, c'était que Cutillonner, en fait, était déjà connu en France il y a quelques temps, mais sous le nom de Chéri Miel, au Club Dorothée.
D'accord, ok. Le Club Dorothée, la moyenne d'âge des spectateurs? En général,
je passe sur ça, surtout que c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire.
Oui, c'est surtout que t'as pas envie d'être ridicule, quoi, c'est ça.
Disons que je préfère Neon Genesis Evangelion.
Vas-y, du sport.
Je signale à ce sujet qu'on parle d'un retour de Dorothée à la télé.
Oui,
attention.
Oui, pour un projet tenu par Jean-Luc Azoulay, il en a parlé justement la semaine dernière à propos de la TNT.
TNT débarque.
Oui, super. On va y arriver. On continue avec donc des bandes dessinées. Je vais commencer par André Téman, qui est un dessinateur vraiment dans le style ligne claire, pure et dure, mais qui fait un excellent polar qui s'appelle Caroline Baldwin. Donc le tome 11 vient de sortir, il s'appelle État de siège, c'est dans la collection Ligne Rouge, c'est Casterman. Caroline Baldwin est une fille qui est... on va dire qu'elle est plutôt jolie, qu'elle a quelques histoires amoureuses qui se terminent un peu mal à chaque fois, mais ça l'entraîne dans des histoires de, on va dire, dans un polar plutôt glauque, et qui ramène, je vais dire, à chaque fois à un thème politique ou un thème sociétal. Je m'explique. Dans cet épisode, elle part à la recherche d'un ado fugueur, il s'agit de son neveu Jérémy, et elle va se retrouver dans une histoire de trafic de cigarettes. Ça se passe au Canada. Au Canada, les clopes valent très cher, sauf dans un endroit, dans les réserves indiennes, s'il vous plaît. Et il se trouve que justement, ce trafic de cigarettes sert à financer une révolte d'Indiens qui parlent de s'armer et d'y aller d'une manière plutôt violente. Parallèlement, une autre enquête commence pour Caroline Baldwin, et il s'agit de rechercher un père disparu, un ancien de la Légion étrangère qui est basé au Liban. Mais on sent d'entrée que l'affaire s'annonce plutôt compliquée. Dans le contexte lui-même, Caroline Baldwin est d'origine indienne. Quand je parlais du contexte sociétal et contexte politique, dans les épisodes précédents, Caroline Baldwin avait affaire avec un tueur de masse, puisqu'il s'agit du virus du sida. Et là-dessus, André Téman le montre d'une manière qui est extrêmement intéressante et extrêmement troublante. Là, le fait que Caroline Baldwin est indienne, eh ben, ça lui permet de nous montrer la position actuelle des Indiens au Canada. Ils sont vus comme des enfants irresponsables, ils ne possèdent rien, sont officiellement des citoyens de seconde zone, souvent parqués dans des réserves avec pratiquement aucune responsabilité. Et dans l'histoire, si justement la sœur de Caroline Baldwin veut vraiment récupérer, pardon, sa cousine, veut retrouver au plus vite son fils, eh bien, c'est qu'il y a une raison, c'est que on peut enlever la garde, l'État canadien peut très bien enlever la garde d'un enfant à un Indien, même si l'enfant a 16-17 ans, puisque en fait, pour eux, les Indiens, ce sont des gamins, point barre. Bref, c'est assez crispant à lire, ça fait relativement froid, quoi.
Ouais, je sais pas, à survoler comme ça, on dirait un mélange de Tony Lehrman avec Fortier, quoi. Tu vois, genre, un mélange un peu improbable, enfin bon, ça.
En plus, en même temps, c'est vrai que ce tome n'est pas facile à lire, puisqu'il vaut mieux avoir lu les 10 précédents tomes auparavant, mais en tout cas, c'est une excellente série que je vous conseille. Donc, André Taimant, Caroline Baldwin, donc le 11e tome s'appelle État de siège, c'est dans la collection Ligne Rouge chez Casterman. On continue avec Détective Conan de Gosho Aoyama. C'est le manga qui, au Japon, se vend le mieux et qui fait l'un des, dont la série de dessins animés fait l'un des meilleurs scores à la télévision. Faut savoir que la rentrée télévisuelle au Japon a lieu en avril. Là, on est encore dans les vacances. Donc, ça commence en 2 semaines. Ils vont entamer la 9e saison diffusée à la télévision. C'est, énorme. C'est exceptionnel. Il y a au moins 4 films, 6 téléfilms spéciaux. J'en parle des vertes et des pas mûres. Dans le 44e tome, on est dans une histoire d'un chantage à la bombe, dans un stade plein à craquer pendant la finale du championnat de baseball lycéen. Oui, du sport. Je ne dirai plus du mal, comme la dernière fois, des
professionnels. Japonais.
Voilà, exactement. Je vais essayer de me calmer. Un défi lancé à l'insaisissable Key, qui est une espèce d'Arsène Lupin, qui tient à la fois des tours à la Houdini et fait carrément un show chaque fois qu'il fait un vol. Donc c'est carrément un défi lancé à la télévision et une histoire de fantôme dans le lycée de Shinichi. Je rappelle l'histoire. Shinichi est un détective lycéen qui a eu le malheur de se mêler d'une chose qui ne le regardait pas avec des mafieux particulièrement puissants et il se trouve qu'ils l'ont empoisonné. Mais, hasard, son corps de 17 ans se retrouve transmué en un gamin de 6 ans. Et donc, il se retrouve petit gamin, mais il peut pas vraiment expliquer l'affaire. Donc, il est à chaque fois obligé de jouer d'artifice pour faire comprendre aux adultes comment résoudre l'enquête et en même temps au lecteur, puisqu'il s'agit d'un whodunit, c'est-à-dire dans la bonne vieille tradition des Agatha Christie, etc., d'un roman où il est question de trouver qui a fait le coup avant que le personnage raconte tout.
Et bref, oui, avant la fin du livre, ouais. Voilà. Avant la révélation finale.
Comme dans les 5 dernières minutes, c'est un vrai plaisir. Et d'ailleurs, c'est bourré de petites allusions à plein de romans de polar. Ainsi, le commissaire s'appelle Maigret, s'il vous plaît. Voilà. Le nom du personnage, le pseudo qu'il prend, c'est Conan Edogawa. En référence à Conan Doyle et aussi à Edogawa, qui est un auteur de polar japonais qui est assez connu sur l'archipel. Et là-dessus, on a droit à des traductions qui sont plutôt bien faites de la part de chez Dargo. Et ils sont allés très vite, puisqu'ils ont rattrapé les 10 années de bouquins. Un rythme parution, c'était carrément un bouquin par mois. Hein, au bout d'un moment, nous suivions Conan qui regardait les préparations du mondial et donc l'équipe du Japon s'entraînait. Et là, qu'est-ce que l'on retrouve, page 106, hein, Thomas? Thomas, page 106.
Il y a une petite affiche.
Ouais.
Une petite affiche d'un film, Ocean's 12.
Voilà. Donc s'il vous plaît, donc ça fait assez amusant de Ocean's 12 qui est sorti il y a, pas longtemps au Japon. Ouais. C'était en novembre dernier justement. Donc on est relativement proche, donc c'est plutôt sympa. Et en même temps, la série de dessins animés, donc j'avais dit qu'ils en sont à la 9e saison au Japon. Là en France, on passe la première saison actuellement sur France 3 dans l'après-midi. Il faut savoir une chose, c'est que les obligations des services publics et les conventions du CSA obligent quand même la télévision publique à couper pas mal de scènes, puisqu'il s'agit de scènes assez choquantes pour le jeune public, puisqu'on voit le meurtre, on voit des scènes de reconstitution, ça y va, plutôt sec. En tout cas, c'est assez amusant. Si vous connaissez le dessin animé, ne vous fiez pas du tout là-dessus, parce que le dessin animé est destiné à des enfants de 10 à 12 ans, alors que le bouquin en lui-même, c'est plutôt justement pour les jeunes adultes. Et après, ben, c'est à vous de découvrir. En tout cas, c'est une série qui marche très très fort et qui n'est pas loin de s'arrêter. Bref, là-dessus, ça y va sec.
Il n'y a pas de numéro sur les pages, tu es gentil.
Si, si.
La page 106, ça n'existe pas.
Oui, surtout que c'est comme c'est imprimé à la japonaise, c'est à l'envers. Vous écoutez Radio FMR, il est 12h20. Vous écoutez donc le supplément week-end, spécial John Carpenter, juste après ça. Gonzalez.
Getting slapped on, stepped on. Well, figures better get gone, get gone. So take me that Broadway, you take me that Broadway, you take me that Broadway, you do it tonight. I gotta get my prank on, prank on. I hit 'em with a sad song, sad song. So take me that Broadway, you take me that Broadway, you take me that Broadway, you do it tonight. I got an extra testicle. You're skeptical about spectacle. These days, bad taste is so delectable, and the crowd is so suggestible. In the home of the showman, home of the shaman, home of the G-man, home of the comedian, home of the vaudevillians with opinions by the millions. I gotta get my prank on, prank on, and hit 'em with a sad song, sad song. So take me that Broadway, you take me that Broadway, you take me that Broadway, you do it tonight. And if I ever get there, get there. I'm gonna show my chest hair, so take me that Broadway, you take me that Broadway, you take me that Broadway, I'm ready to fight.
Oui, fini de rire là. Hein. Ou alors si c'est de l'humour, c'est l'humour troisième degré.
On commence, on commence l'hostilité là.
Ouais.
Allez. Bon, à l'occasion de la sortie du film Assaut sur le Central 13 de Jean-François Richer, qui est un remake du film de Carpenter sorti en 76, on fait une spéciale Carpenter aujourd'hui. Le film est sorti il y a un peu plus de 15 jours. Comme vous l'a dit tout à l'heure, il n'est malheureusement plus à l'affiche. Et hasard la programmation. Donc ça va être pour nous l'occasion de vous parler à la fois du film original et de la belle filmo de John Carpenter, un réalisateur que on aime tous beaucoup à la radio.
Que tu es grand, que tu es beau, prince des ténèbres.
Donc déjà il faut rappeler qui est Carpenter. Alors on va faire un petit sondage là. On va demander à tout le monde là quel est pour vous le meilleur film de Carpenter et son plus pourri.
Oh, le meilleur film à mon sens.
La question qui est piège.
Ah,
ça fait trop là.
Alors, Le Prince des Ténèbres, pour moi, pour le meilleur. Et le plus pourri, à mon avis. Ah là 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 là, là tu es dur.
tu dresses la liste devant toi.
Ouais, je suis d'accord. Mais non, mais franchement, parmi les meilleurs, c'est L'Antre de la Folie et Le Prince des Ténèbres. Pour moi, et le plus pourri, peut-être, c'est Fog.
D'accord.
Oh là là. Pas d'accord, du tout. Ah, moi j'en mettrais plusieurs, hein, de toute façon, en préféré, hein, de toute façon, parce que tu peux pas avoir un préféré de Carpenter vu qu'il en a fait plein de super bons. C'est oui. Ça qui est le problème. Moi ouais, je dirais le tout premier, de toute façon, c'est celui qui l'a vraiment révélé, qu'il a imposé comme étant un cinéaste culte, on va dire, hein, dans le bon sens du terme quand même, c'est 97, New York 1997. Ça c'est clair. Mais après, moi j'aime particulièrement Jack Burton. Les aventures de Jack Burton, parce que bon, c'est
C'est fun, c'est
vraiment
rigolo.
Super en avance par rapport à son époque.
Ah oui, c'est clair, Machin Sawyer avant l'heure.
En avance. Et sinon, moi j'aime bien Vampire, quoi, parce que c'est un vrai film de western, quoi, comme il les aime, et comme il l'a fait durant toute sa carrière, hein, de toute façon, c'est pratiquement que du western. D'ailleurs, après, si t'es gentil, bah, je te parlerai de son père putatif en matière de western, Sam Peckinpah.
Ouais, je dirais quelqu'un comme Howard Hawks, mais on n'est pas d'accord, mais on verra.
On verra, ça tombe bien, ça lance. Et je sais pas, ton invité, il a peut-être quelque chose à dire.
Oui, bien sûr.
Allez, non, mais si tu mets le micro trop bas, t'y arriveras pas, vas-y.
Vas-y.
Dans les moins bons films de Carpenter, je mettrais peut-être Ghost of Mars, même s'il n'est pas si mauvais que ça. Et dans mes préférés, je mettrais bien L'Antre de la Folie et Jack Burton.
Oui, t'es un copieur, parce que c'est exactement mon choix aussi, avec New York 97 aussi.
Oui, pareil.
Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup mis en scène les anti-héros, le thème de l'anti-héros, et notamment l'utilisation de son acteur fétiche. Acteur fétiche du sport.
Acteur fétiche, Kurt Russell. Appelez-moi Snake.
Non, du sport, non.
Call me Snake.
Laisse faire les pros.
Oui, parce qu'il a, tu me disais en tête tout à l'heure qu'il avait, commencé sa collaboration avec Kurt Russell à travers
le film Elvis the Movie.
Oui.
Alors qu'il est carrément un ovni, hein, quand même, parce que bon, il faut rappeler que le film est sorti 2 ans, je crois, après la mort d'Elvis, le vrai Elvis.
Oui, hein, oui, tout à fait.
2 ans après sa mort, le film sort.
Mais il est pas mort.
C'était la première. Enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire, mais pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais 2 ans après sa mort, donc très courageux, c'est la première biographie officielle, la première biopic, comme on dit maintenant, quoi, tu sais, première biopic officielle sur la mort d'Elvis, hein, c'est-à-dire qui a été autorisée par les ayants droit et tout le bordel. Et pour ce faire, au départ, un autre acteur était présenté, un acteur un petit peu plus connu, mais dont je me rappelle pas le titre, c'est vachement con, tu vois.
Moi,
mais
grave.
Tant pis, c'est pas grave, parce qu'il a pris un illustre inconnu à la place, qui s'appelle Kurt Russell. Et qui s'est révélé tellement bon, tellement convaincant, parce que bon, ben, faut quand même dire que là, il y allait à fond les manettes. Hein, ouais. Il a fait son boulot d'acteur, mais vraiment à fond. C'est vraiment du très grand art, du grand boulot, quoi. Et c'est ce qui l'a poussé d'ailleurs après à le reprendre pour New York 1997.
Et à l'époque, Kurt Russell était un habitué des productions Disney quand même. Hein.
Ah oui. Et il y est retourné de toute façon, hein, comme alimentaire, je veux dire, Disney, c'est toujours plaisant.
D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a tellement marqué dans le rôle d'Elvis qu'il a...
Vas-y, on termine et après on me fait signe qu'il faut passer la pub.
Il a tellement marqué dans le rôle d'Elvis qu'il a joué aussi clone d'Elvis dans Destination Graceland avec...
Exactement, l'excellent avec Kevin Costner, génial, carrément génial.
On peut arrêter le massacre 5 secondes le temps de...
Stockholm fucking city, samedi 19 mars à l'ambassade. Exposition de graphisme, Golgot 14 and guest. Dance floor number 1. Hot electro beats. Un mix d'Electrolux Family avec Mr. Dick Wands is dead. Paul de Valsonge. Echo. And Mobster Kais. Dance floor number 2. Refresh German Bass. Le fort pur son crew. Reçoit le TB crew. Avec DJ Bito, Yalo et MC Sandor. Entrée 3€. Départ 23h. Arrivée 5h du matin.
Et on reparlera aussi de toutes les soirées tout à l'heure en fin d'émission.
Le 19 mars 2005 à partir de minuit, a Big Bad Sound Clash à 10 minutes de Toulouse. Au club Le Poseidon Gypsy Paradise. Allez de la Garonne à Pinsinguel. Deux Big Sound pour le plaisir des massifs junglistes. Jungle Junkies Crew. Le Bad Sound de l'île 5-9 représente. Avec les DJ Ebola, Chang, Indy et MC Lord Bitume. Versus Missing Link qui jouera sur son terrain. Avec les DJ Jude, Draft Mongaz, Lady et MC Canada. Wicked Sound Clash No Man. Deux Sound français number one. Ça se passe près de chez vous à 10 minutes de Toulouse. Au club Poséidon Gypsy Paradise. Allez de la Garonne à Pinsinguel. Le 19 mars 2005. Well, well, c'est à partir de minuit et c'est 5 euros. Jungle Junkies versus Missing Link. Bad, bad, bad.
Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz, il est midi et 30 minutes exactement, donc ça tombe bien parce qu'à minuit j'aurai vraiment des chocottes là avec cette spéciale John Carpenter dans ce grand week-end.
C'est clair, Carpenter, quand on pense à Carpenter, c'est surtout un réalisateur qui a composé la quasi-intégralité de la BO de ses films.
Yes.
À part une, du sport. Quel BO n'a-t-il pas composé?
Là 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 là, remets-moi la... Je crois que c'est Jack Burton en fait.
Ah non.
Ou c'est Elvis.
C'est The Thing. The Thing, c'est Ennio Morricone qui l'a composé à sa place.
Ah ben c'est énorme.
Ah ouais. C'est le seul film qui a coûté du pognon à Carpenter alors. Vu les tarifs pratiqués par Morricone.
Et c'est pas c'est sûr. Clair. Là on passe à bande originale donc de Halloween.
Halloween. Ouais. Un film qui est assez trippant, même s'il est correctement, il est excellemment réalisé, sans cette bande son, ce serait pas quand même Halloween.
Ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, bon, c'est le film dans lequel on voit apparaître une nouvelle venue, enfin presque une nouvelle venue hein, dans le monde du cinéma, une fille de, en fait.
Fille de Janet Leigh.
Ouais.
Qui est Jamie Lee Curtis.
Jamie Lee Curtis.
Voilà, et c'est lui qui a. Je sais pas si c'est lui qui a instauré le système du slasher ou ça existait avant.
Bah non, ça existait un petit peu avant, mais enfin bon.
Celui qui l'a démocratisé peut-être.
Lui, il a vraiment donné ses lettres de noblesse, on va dire, au style. Sans problème.
Tout à fait. Non, on va revenir tout à l'heure sur Asso, puisque c'est. Sur le film original de Carpenter, mais on va quand même expliquer qui est un peu Carpenter, hormis le fait qu'il ait composé la plupart de la BO de ses films, c'est quelqu'un. Il y a un truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il a eu un Oscar dans sa carrière. C'est quand il était à l'époque de l'école de cinéma à l'USC à Los Angeles, il avait s'est occupé du montage et de la musique de Bronco Billy, The Resurrection of Bronco Billy. Et d'ailleurs, c'était l'école qui avait gardé l'Oscar à sa place parce qu'il n'avait pas pu le récupérer. Et juste après, c'est un film dont t'as pas parlé tout à l'heure, c'était Dark Star. Dark Star qui avait, si j'avais écouté 5 ans de sa vie, il s'était mis avec des potes à lui.
Ouais, mais enfin bon, c'était son premier film hors école. Hein.
Voilà,
je sors de l'école et puis j'essaie de me démerder, de commencer à bosser. Je m'en il a commencé un petit peu à la. C'était la même époque et la même génération que les Coppola, les Spielberg, Lucas et tout ça qui faisaient des petits films comme ça, un petit peu, mais qui imprimaient vraiment leur style. Scorsese aussi, avec.
De Palma.
Voilà, tout ça.
C'est le nouvel Hollywood.
C'est le nouvel Hollywood. De toute façon, il est en plein dedans. Bon, il a pas choisi franchement la même voix, on va dire. Hein. Il est resté quand même cramponné un hein, style. C'est tout à son hommage, en tout cas, pour moi. Il a su refuser pas mal de compromissions. Et ça, c'est vraiment tout à son honneur, de toute façon. Et en fait, ce film, Dark Star, en fait, c'est déjà un petit peu pour se démarquer par rapport à ses collègues, hein, de toute façon, puisque bon, c'est plus ou moins parodique hein, comme film, parodique science-fiction, et mais ça marche quand même pas mal. Mais bon, c'est un essai, en fait.
Ouais. Il avait fait, notamment avec la collaboration de Dan O'Bannon, qui était le futur scénariste de Alien.
Yes.
Voilà. Tu as mentionné tout à l'heure le nom d'un réalisateur assez talentueux qui était Sam Peckinpah. J'avais mentionné le nom de Ward Hawks. C'est quelqu'un qui s'est toujours réclamé la tradition du western. Notamment à travers un film qu'il adule et qui aura cultivé toute sa vie, dont il parlera à longueur d'interview, qui est Rio Bravo, surtout.
Ah ouais, bah oui, bah, quand même. Hein.
Voilà. D'ailleurs, Asso était un remake de Rio Bravo. Voilà. Et ça nous amène justement au film de 76 qui s'est fait remaker. Récemment, le film qui est sorti chez nous le 2 mars. Alors, c'est quand même une consécration de la filmo de Carpenter, puisque il s'est enfin fait remaker par quelqu'un. Il faut quand même préciser il était déçu de pas se faire remaker. Il s'est remaker lui-même avec Los Angeles 2013.
Oui, mais là, comment dire, Los Angeles 2013, pour moi, c'est même pas un remake, quoi. C'est un très mauvais remake. C'est une parodie. je sais pas, pour moi, c'est évident que John Carpenter doit s'en retourner dans sa tombe, quoi.
Non, Xavier, non.
Quoi?
Il n'est pas mort, il est en pré-retraite seulement.
Ah, alors pourquoi on fait une spéciale, là? Bon.
Allez, on attaque sur Asso?
Ouais.
Allez. Bon, Asso, bah, c'est... le film est sorti en 76. Alors, le titre original du sport, c'est Asso on Precinct 13.
Sur le commissariat 13, hein, c'est pas ouais. Sur le central, comme ils disent, version ouais. Française, hein, mais Precinct, en anglais, enfin, en américain, on va dire, c'est ce qui désigne le commissariat.
C'est une division d'un district, en fait, voilà, d'un arrondissement.
Voilà, hein, on connaît les chroniques du 87e Precinct de Ed McBain, ben, bien sûr, hein, les fameuses avec Steve Carella, avec Meyer, avec détective Bertie Kling et tout ça. Enfin, là, je parle de roman noir, hein, c'est pas la même chose. Mais on parle également du 27e Precinct. Dans quoi? Dans NYPD.
Ah, d'accord.
Eh oui.
Eh oui. Et donc dans ce film, on retrouve évidemment, on en a parlé tout à l'heure, l'héritage de Howard Hawks, puisque toute sa carrière, Carpenter a utilisé le thème du huis clos, du siège, de l'enfermement, etc. C'est un thème qu'il aura abordé dans quasiment tous ses films, notamment parce qu'évidemment, il y aura toujours des blaireaux pour se laisser prendre au piège par Oshawa, des pirates morts-vivants cachés dans un brouillard maléfique comme The Fog, dans l'Antarctique.
Attention, le brouillard, je le vois, écoutez ma radio.
Sont piégés dans l'Antarctique, dans The Thing, dans une église assiégée par des clodos et aux prises avec le retour de l'Antéchrist dans Prince des Ténèbres, ou par des colons martiens zombifiés par les natives dans Ghost of Mars. Quand même, c'est quand on voit les pitchs, on croirait pas que ce sont des films si bons à l'arrivée quand même. Donc Asso, petit mot sur le casting. Parce que c'est, à mon sens, c'est quand sont en train de rester les inconnus quand même.
Absolument, tout à fait. Hein. On les a pas revus. Ils ont continué à écumer, on va dire, le circuit secondaire.
Hein, Z ou
de,
B.
X, de figurants ou... dans des minables séries télé ou dans des petits téléfilms. Voilà.
Voilà. On va les citer quand même parce que bon, Austin Stoker. C'est celui qui joue le rôle de lieutenant Ethan Bishop. D'ailleurs, c'est marrant puisque les noms, puisque le méchant, enfin le criminel qui s'associe au flic, c'est incarné par David Johnston, c'est Napoléon Wilson. Et dans le remake, au début du film, on appelle le flic Napoléon et c'est le criminel qui s'appelle Bishop. D'ailleurs, ils ont fait un crossover un peu rigolo. Et le scénario est signé John T. Chance. Alors, qui c'est ce John T. Chance? Xavier.
Là, laisse-moi deviner, je prends mes notes, zou, et je ressors tous ces pseudos. Voyons, il y a Frank Armitage, Johnny Carpenter, James T. Chance, John T. Chance, c'est celui-là, non?
Ouais, c'est celui-là.
Il y a aussi Rip Hate et Martin Quatermass.
Bon,
donc, ma foi, il fait tout, mais sous des pseudos différents.
Voilà, c'est Carpenter lui-même et John T. Chance.
C'est pour tromper le fisc, à mon avis.
Ouais, et John T. Chance, c'est le nom de John Wayne dans Rio Bravo.
Ah oui.
Ah oui.
Voilà.
Ah, l'allusion western, là.
Ouais, tout à fait. Alors, le pitch est super compliqué, soyez extrêmement attentifs. Des flics et des truands sont assiégés dans un commissariat et se font canarder la tête par un gang à l'extérieur.
Mais qui?
Eh oui, on sait pas. Le gang à l'extérieur?
Ben oui.
Ben, le gang, c'est...
c'est un gang de rue, je crois.
C'est un mec qui demande protection dans un commissariat, parce que le gang a tué sa petite fille, qui demandait une glace. Et lui, pour se venger, il a buté un des chefs du gang. Donc il y a parmi l'assistance ici, il y a Xavier qui n'a pas vu le film.
Si, j'ai vu les 10 premières minutes, hein, j'avoue, je suis honteux, mais bon.
Du sport, un petit mot sur le film original.
Oh ben, ça commence furieux, ça finit très furieux, voilà, c'est comme ça que je peux qualifier ce film, hein. C'est vraiment furieux. Quoi.
En tout cas, dès ce film, il avait instauré son style qui allait rester sa marque de fabrique, c'est l'utilisation des travelling pour planter le décor, etc., l'utilisation à merveille de l'espace, un système du huis clos qu'il réutilisera notamment dans Prince des Ténèbres avec cette mise en place dans l'église qui est absolument sidérante, qu'il avait déjà exploré dans Asso. Voilà.
Voir dans The Thing, hein, vu que l'atmosphère est hyper confinée à un endroit bien précis. Hein.
Ouais. Alors, avant de parler du remake qui est sorti récemment, là, si on pouvait faire une petite différence, c'est quand même la mise en scène qu'il utilise dans Asso présente l'asso, justement, du gang de criminels à l'extérieur comme un événement surnaturel. Il les présente comme des zombies, en fait, puisqu'on voit quasiment pas leur visage.
Ouais, on les voit pas, on sait pas vraiment qui c'est. C'est au fur et à mesure de l'histoire et au fur et à mesure mesure du déroulement du film qu'on commence à comprendre exactement qui c'est, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils canardent. Mais c'est vrai que on peut pas tellement mettre un visage sur les différentes personnes. C'est vraiment pas évident.
D'un autre côté, il passe justement une bonne partie du début du film à bien montrer que c'est une banlieue qui est particulièrement pourrie. C'est l'un des premiers d'ailleurs à avoir montré d'une manière aussi désespérée. Une scène de canardage d'ailleurs au tout début où on montre bien que les flics et les gangs sont vraiment en guerre ouverte. On est dans les scènes de guérilla assez surprenantes pour l'époque.
Ça, c'est déjà la tactique l'utilisation de Carpenter, hein, du matériau tel qu'il le trouve, le matériau brut, à savoir, il est pas allé mettre des décors ou planter des décors un petit peu partout à la campagne. Non. Il prend un endroit où il peut filmer, il demande des autorisations et puis vas-y, je shoot. Mais on va pas faire passer les balayeurs avant, y a pas de problème. Hein, on filme comme ça. Hein. Y a qu'à voir les nombreuses couilles qu'il y a dans ces films. Le plus connu, New York 90, avec de nombreux figurants ou des machinistes qui passent dans le champ pendant que Snake Plissken erre dans les rues de New York. C'est assez sidérant quand même, mais ça le fait, il n'y a pas de problème. New York 97, pour ça vraiment il y a beaucoup de coups, c'est assez remarquable.
Je crois que tu peux le refaire là.
On va finir de parler du premier parce qu'on va enchaîner sur le remake là, mais je parlais tout à l'heure du ciné live de ce mois-ci. Il y a un article sur justement la BO du remake, mais il s'attarde un peu sur la BO de l'ancien parce que c'est assez marrant, je vais vous le dire. On a beaucoup frémi à l'écoute de la musique minimaliste créée par Carpenter himself pour l'assaut original. Un thème de 5 notes, deux sons issus d'une banque de démos et une maîtrise de l'utilisation d'un séquenceur allant jusqu'au bas de la page 1 du mode d'emploi.
Mon Dieu, Jean-Michel Jarre, on t'a eu.
Xavier, on va passer au remake maintenant.
Ouais.
Allez.
C'est bien la bonne.
Oui, oui.
Je me suis pas trompé, d'accord. Donc le remake, malheureusement, on s'est fait avoir. Il est sorti depuis 20 jours au cinéma. Il est déjà déprogrammé des salles. Et là-dessus, c'est bien dommage. Primo, c'est un réalisateur français qui l'a fait.
Jean-François Richer.
Et à mon avis, c'est plus un prétexte qu'autre chose d'avoir dit oui, je fais un remake de Asso. Enfin, ça, c'est personnel.
Alors, du sport, tu l'as pas vu, je crois.
Non, j'ai pas vu le remake.
Alors déjà, toi, pour préparer l'émission, j'ai vu que tu avais passé un magazine à Xavier, qui est l'hors-série de Mad Movies sur Carpenter, numéro 1 qu'ils avaient fait. À la fin, si tu te souviens bien, il y a une interview de Jean-François Richer dans la rubrique « Fan de Carpenter », « Fan de Carpenter vu par 6 réalisateurs français ». Et à la fin, il y a Jean-François Richer qui dit « Carpenter est selon moi un cinéaste de droite qui a évolué. Asso est un film de droite, on y dit que la seule solution pour survivre en tant que prisonnier est de s'allier aux forces de l'ordre. » Plus loin. Techniquement, Carpenter gère à merveille l'espace de ses films, notamment dans Asso, dont je me suis amusé un jour à redessiner le plan du commissariat. Je travaille sur un remake d'Asso avec Nicolas Boukrieff, futur réalisateur donc du Convoyeur. C'est le seul film de Carpenter que je me vois refaire, car il est réellement ancré dans le social. Carpenter est assez enthousiaste sur le projet, il a vu Ma Cité va craquer, et je crois qu'il a bien aimé. Mais voilà.
En même temps, moi je trouve que justement, il n'y a pas vraiment de social dedans, il y a une histoire de flic ripou. Ah merde, spoiler.
Eh oui.
Ouais, on s'est spoilé partout, voilà. C'est clair. Hein.
Donc, après tout, je veux dire, il n'y a pas vraiment, on n'a pas la même impression justement qu'a mis Carpenter dans le début du premier film, c'est-à-dire on n'a pas une longue présentation de l'environnement du commissariat. On sait vaguement qu'il y a une forêt à côté, qu'il y a 2-3 entrepôts autour, que les voisins sont particulièrement sourds, et ou alors eux aussi ont une panne de téléphone, ou en tout cas. Il n'y a pas vraiment l'ambiance qui est autour. Après, ça se passe pas dans le Los Angeles, dans les quartiers chauds, en plein mois de juillet. Ça se passe
la nuit, sous tempête de neige.
Le soir du Nouvel An, à Détroit, qui est quand même l'une des villes connues pour ses records de minimales dans les températures. Donc, pour les États-Unis, à part peut-être la capitale de l'Alaska. Mais bon, je veux dire, c'est là-dessus, c'est une ambiance totalement inversée. C'est-à-dire qu'il va faire des copies parfaites,
délibérément le contre-pied de certains trucs, de certains éléments. Et s'il y a un truc qu'on peut dire sur le nouveau film, c'est la qualité du casting par rapport à l'original, même si acteurs à l'original se débrouillaient bien quand même. Hein. Donc dans le nouveau, il y a Ethan Hawke dans le rôle du flic, Lawrence Fishburne tout droit sorti de Matrix qui joue le criminel.
Avec une citation grecque, quand même ça le fait. Quand même.
Je sais plus ce que c'était, mais oui, tu l'as relevé toi, mais je sais plus. Du sport, ça t'intéressait. Il y a Maria Bello dedans.
Oui, tout à fait.
Maria Bello qui jouait Anna Delamico dans Urgence.
Ouais. Ah, blonde, ouais. Blonde.
Oui, tout à fait.
Ah, bon, d'accord.
Et okay, le méchant est incarné par Gabriel Byrne, tout droit sorti du
Joueur Suspect aussi,
ouais.
Oui.
Et on avait le sentiment en sortant du film, c'était qu'il y avait un petit côté polar d'excellente facture, un peu à la Négociateur, et bien finalement, on s'est aperçu finalement que c'était le même scénariste, James de Monaco, qui avait scénarisé Négociateur et Assaut sur Central 13, finalement. Mais Xavier, j'ai demandé ton avis, tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais il t'avait fait une remarque assez pertinente en sortant du film, c'est que on voit bien sur certains éléments qu'est-ce qui est européen et qu'est-ce qui est américain dans ce film.
C'est vrai que l'une des choses qui m'a marqué, c'est on voit des scènes quand même de planter de couteau, le couteau qui est enlevé et 3-4 gouttes, mais l'image est très sombre, donc c'est film, donc c'est juste une goutte qu'on va passer, mais en contre-jour et vraiment, mais le temps d'un clin d'œil, mais c'est quand même des effets spéciaux, ça se sent hein, là-dessus. C'est pas des geysers de sang comme dans les films de Chambara japonais, mais c'est vraiment, on met 2-3 petits trucs, ça rajoute à l'ambiance. Donc là, on a un usage des effets spéciaux qui est fait, mais de manière à ne pas montrer les effets spéciaux comme étant une fin en soi, un plan à l'américain. Attention, on a mis du pognon. Ah, attention, scène, effets spéciaux. Effets spéciaux. C'était la fin d'effets spéciaux. Non, là, on le met à petite touche, comme l'a fait Jeunet, par exemple, dans Amélie Poulain, avec le poisson, quand il est relâché dans le canal. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très subtil et qui est là pour accompagner une scène. Et là-dessus, justement, c'est très, 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 très bien mis. C'est-à-dire qu'on a vraiment à la fois un film américain, un film qui... et potentiellement un blockbuster, mais un film d'action pur et dur, et d'un autre côté des petits trucs d'atmosphère qui sont par exemple, on met de la caméra portée en faisant courir le caméraman et sans stabilisateur, c'est-à-dire que c'est pas on le fait pas quand même à la mince, j'ai oublié le nom. C'est-à-dire que visiblement le mec n'est pas un archer de 20 kilos de stabilisateur. Là, ça galope.
La Kubrick.
Vraiment sur l'épaule la caméra.
C'est vraiment, on donne l'impression d'être à la place d'un des personnages en vision subjective, manière Doom. Hein, à mon avis, c'est pas un hasard. Je vais dire, là où justement personne ne l'aurait fait, parce que là on ne voit rien. Mmh. Alors que là, justement, tout le truc, c'est en mettant vraiment de petites choses au fur et à mesure qui font l'aspect d'angoisse et d'urgence dans lequel se retrouvent à la fois les personnes qui sont les matons et les prisonniers.
Et toujours est-il qu'on voit aussi les quelques touches européennes avec l'utilisation de ralenti sur certains objets qui tombent par exemple, alors que les Américains ont utilisé le ralenti pour autre chose, par exemple pour les bastons, alors que les Européens font ça pour autre chose, sur stylisation des plans, sur cadrage, etc. Et ça, on peut vraiment, Jean-François Richer, c'est quelqu'un qui manie bien le visuel de son film.
Là-dessus, justement, il a un très très bon usage, je veux dire, de la caméra comme étant un stylo, c'est-à-dire qu'il va pas justement ralentir artificiellement une scène. Une scène de baston, lui, il a fait passer cash sec.
À l'image, il est très fort. À l'image de l'intro de son film, qui est vraiment ingénieuse de brutalité, avec ses filtres surexposés. Pour les auditeurs, si vous voulez voir ce film, vous pouvez attendre qu'il sorte en DVD. Peut-être qu'il est encore à l'affiche sur certains cinémas.
À mon avis, dans un mégaplex à la con. Ouais. Donc, prendre la voiture et se retrouver en banlieue à manger du popcorn.
Voilà, vous pouvez commencer par ce film. Vous pouvez vous faire le remake dans la foulée, le film original, pardon, de Carpenter dans la foulée, qui était sorti en 76. Et puis après, vous pouvez vous faire la suite de la filmo de Carpenter avec tous les bons titres qu'on vous a dit en début d'émission. On va un petit peu conclure sur Carpenter peut-être.
Signaler que j'ai lu une interview de Jean-François Richet qui a montré son film à Carpenter et qui lui a dit que l'époque est différente, le film est différent, mais il est bien. Voilà, c'est le commentaire de Carpenter.
Ah, mais gentil.
Ah, Jean-François Richet.
Une coquetterie de Carpenter d'ailleurs. Tu me l'as fait remarquer quand on a vérifié la filmo. John Carpenter.
Oui, il signe toujours ses films de John Carpenter's Vampires, John Carpenter's New York 97, à part un film, c'était Memories of an Invisible Man, qui n'avait pas signé John Carpenter's parce que c'était beaucoup de contraintes de studio et qu'il n'avait pas vraiment revendiqué, je sais pas comment on dit ça, il assumait pas ce film jusqu'au bout, c'est pour ça qu'il a pas signé comme ça. On va terminer avec nos petites recommandations, si vous voulez étudier votre Carpenter illustré, dans les règles de l'art. On a mentionné tout à l'heure le hors-série de Mad Movies sur Carpenter, c'était le numéro 1, collection réalisateur, excellent, bible.
Oui, c'est assez complet, hein, y a pas de problème.
Voilà.
Et je te le rends d'ailleurs.
était sorti il y a 2 ans, je crois, non ?
Bah, il suffit de se procurer un numéro de Mad Movie et dans lequel on peut commander les différents hors-séries qui sont sortis de Mad Movie. Il y a Carpenter, il y a également après
Peter Jackson.
Peter Jackson. Cinéma de l'Asie est le quatrième sur les super-héros au cinéma. Voilà,
on parle de nos copains de Comic Box, d'ailleurs, qui est plutôt très bien foutu.
L'actualité de Carpenter, depuis Ghost of Mars, ben il est en pré-retraite. De toute façon, il a dit dans les interviews qu'on l'avait dit, ouais, vous êtes un gauchiste finalement, d'invasion Los Angeles, vous critiquez le réganisme, etc. Il dit, ah ouais, non, mais bon, je suis avant tout américain, j'aime mon pays, et je suis un capitaliste au fond. Hein. Donc là, je vais sortir ma pré-retraite parce que je suis crevé. J'ai bossé pendant des années sur mes films pour avoir certains comme Vampire qui est génial, mais sortir directement en vidéo, j'en ai ma claque. Maintenant, je sors de ma pré-retraite que si on m'apporte une montagne d'argent. Qui fait que depuis 2001 et la sortie de Ghost of Mars, il a plus rien fait ce gars. Et la seule actualité qu'on peut noter depuis, c'est la sortie du jeu vidéo The Thing. Voilà, qui prolongeait un peu l'expérience du film avec, par exemple, si on visait la créature et qu'on amochait quelqu'un par hasard sur l'épaule, et il allait vous viser de son canon pendant tout le reste du jeu en disant t'es sûr que t'es pas infecté toi.
C'est bien, une bonne ambiance là. Il va avoir du sang.
Voilà. Et puis on a eu le sac un peu lourd là pour venir au studio ce matin. On va sortir les DVD. Alors, il y a un coffret.
C'est on fait pas de la télé, hein, Thomas.
Les Maîtres de l'épouvante avec un triple DVD Mario Bava, John Carpenter, Dario Argento. Parce qu'il y a pas que Carpenter dans le cinéma fantastique, il y a aussi les deux maîtres qui l'accompagnent, les deux Italiens. Donc c'est DVD avec un documentaire d'une heure sur les trois réalisateurs avec un petit livret. Pour accompagner tout ça. Voilà, si vous ne connaissez pas beaucoup Carpenter pour l'instant. On a mentionné les films tout à l'heure avec le. Faut saluer. Faut saluer la bonne initiative de conjointe de Studio Canal et des Cahiers du Cinéma qui ont édité 4 films en DVD avec un packaging absolument très très beau et avec un livret à l'intérieur assez conséquent qui, en comprenant les films The Fog, New York 97. Prince des Ténèbres et Invasion Los Angeles avec des couvertures inédites. Donc voilà, pour les amateurs du sport.
Ouais. Je te les rends pas.
C'est sympa, là, on a ces échanges des BD, des
alors,
DVD.
Alors attention, on va faire une performance maintenant, je vais vous montrer l'ouverture du coffret collector Ghost of Mars.
Attention, oui, on fait de la radio. Donc attention. On imagine un boîtier qui est gros comme une VHS. À peu près. Voilà. Donc il essaie d'ouvrir péniblement en faisant pivoter l'intérieur, d'accord.
Oh, le livre.
Il y a un pavé. Poche.
The pavé Carpenter à l'intérieur.
Voilà, et ça c'est le pavé en fait qui est un peu plus complet que ne l'est le hors-série Mad Movie. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment avoir un truc complet, c'est le bouquin là hein,
Dans le licence collector de Ghost of Mars.
Visiblement 200 pages hein, à vue d'œil.
300, hein. 288 pages. De toute façon, les deux interviews qui sont comprises dans les deux sont complémentaires. Hein. Il y a des trucs qu'il dit dans un, qui ne dit pas dans l'autre, etc. Et dans ce coffret collector, il y a la BO du film que vous avez pu entendre en fond sonore tout à l'heure.
Et qu'on entend là.
Eh oui, mais toujours, toujours.
Voilà, après fond de K2.
Voilà, je crois que c'est tout. Hein.
Du sport, vous voulez que je passe une bande originale d'une série pour conclure pour faire, et toi, tu voulais passer...
Non, moi, ce sera plutôt pour annoncer ma séquence, ce qu'il en reste.
Oui, alors là, on va peut-être passer un petit MP3 quand même, non ?
Oui, je préfère pour une fois qu'on le signale parce que c'est vrai que d'habitude, on essaie d'éviter. Et là,
alors,
voilà,
on va expliquer ce que c'est, ce que vous allez entendre. Vous allez vous excuser pour la qualité du MP3. C'est ça fait partie de la BO de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. L'auteur et le groupe The Group Devil, fondé par John Carpenter et ses copains Nick Castle et Tommy Lee Wallace, qui sont aussi dans le cinéma. Je crois que Tommy Lee Wallace a réalisé d'ailleurs Halloween 3. Voilà, la suite de Carpenter. Et puis Nick Castle, je crois qu'il incarnait un pirate, je crois, dans Fog. Il incarnait déjà Mike Myers dans Halloween. Voilà, donc ce sont ses potes. Avec ses potes, il a fondé The Coupe des Villes. Et il a fait ce tube. Ce tube rock qu'on peut voir dans l'édition collector de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Et on peut voir le clip complètement hallucinant, typique des années 80 avec les créatures de Jack Burton qui sortent de l'écran de montage avec des éclairs.
Je reconnais ça.
Oui, c'est la série avec Vincent D'Onofrio, ça.
Entre autres.
c'est New York Section Criminelle, peut-être. Non, c'est pas ça.
Oui, avec Vincent D'Onofrio, donc c'est Law and Order, titre original Criminal Intent, version originale, donc, hein, et qui est la troisième dérivée de l'original Law and Order, puisqu'il y a la seconde qui passe en ce moment sur TF1 tous les samedis soirs, Special Unit, hein, qui est plus sur les histoires de mœurs, d'enfants, de viols, de nanas, enfin bon, plus sur ces trucs-là. Hein. Section Criminelle avec Vincent D'Onofrio, c'est le Sherlock Holmes moderne. Hein, il faut vraiment dire qu'il sait tout. Il a tout fait. Il a fait des études d'hébreu comme de linguistique, comme de graphologie. Enfin bon, c'est vraiment Sherlock Holmes, y a pas de problème. Et dans la série originale, qui en est à sa 15e saison, hein, malgré le décès de Jerry Orbach il y a très peu de temps, eh ben elle roule très très bien. Hein. D'ailleurs, à noter qu'un épisode de la saison 14 est diffusé en VO ce soir à minuit, et c'est vachement con parce que c'est en même temps que New York Special Unit sur la une. Donc c'est vachement con. Non, c'est juste comme ça pour vous passer un petit peu de musique, hein. Puis bon, c'est vraiment le générique en plus qui est décliné, hein. C'est-à-dire là c'est le générique original, mais c'est vrai que le thème est décliné comme générique, un petit peu différent, le même thème dans les autres séries dérivées. Donc j'avais envie de vous faire ce coup-là avant de vous parler quelques séries qu'il peut y avoir au programme, de vous faire le coup des nombreux invités qu'on peut avoir dans les séries télé, des invités qui sont soit des acteurs en devenir, soit des acteurs qui ont été au cinéma. Tout d'abord, on va commencer par la rediffusion, mais là sur une chaîne différente, sur TF6, à un horaire peu adéquat pour les gens qui travaillent, hein, parce que ça va commencer l'après-midi à partir de 15h20. C'est mercredi prochain. Cette excellente série qui s'appelle Newport Beach. Je vous avais déjà cassé les couilles.
Oui, oui, oui.
il y a à l'occasion de sa première diffusion sur TF1, une série qui est un petit peu un Beverly Hills qui se voudrait bien trash, hein, ouais. C'est-à-dire que bon bah les situations sont vraiment poussées à l'extrême, les mecs ils vont à fond. Les nanas aussi, c'est vraiment très très dur quand même. Et c'est pas Peter Gallagher qui est le mieux placé hein, dans l'histoire, hein, bien qu'il joue dans la série le rôle de l'avocat qui, dans l'épisode pilote, eh bien, recueille un enfant qui a eu des problèmes, ses parents ont eu des problèmes avec la justice, donc plutôt que de le laisser à l'assistance lui qui décide de le recueillir, vu qu'il est avocat et riche et plein de pognon et qu'il a vachement de place, et puis que c'est pas ces trois piscines qui vont l'emmerder pour avoir une personne en plus. Bref, voilà. Mais par contre, ça devient trash vraiment très très vite hein, dans les situations de ces gens aisés, riches, qui n'ont pas besoin de travailler hein, pour avoir des bagnoles de sport, des piscines et des histoires à n'en plus finir. Mais enfin, c'est vraiment pas mal quand même hein, par rapport à Beverly Hills qui est vraiment mièvre, que c'est pas permis. Là, Newport Beach, ça dépote quand même pas mal. C'est sur TF6 à partir de mercredi prochain avec l'épisode pilote donc qui s'appelle L'Étincelle et l'arrivée de ce mec qui va vraiment foutre la zone. Hein. Là, il fout la zone, mais alors vraiment très grave. Et en plus, il assume à fond les manettes. C'est ça qui est vraiment très très bien. Ensuite, on a un inédit de l'inspecteur Frost. C'est demain soir sur TMC à partir de 2003, à partir de 20h50 demain, hein, qui s'appelle En accord avec la loi. Alors l'excellent inspecteur Frost dans une histoire un petit peu pénible. Comme seuls les Anglais savent à peu près les traiter avec un petit peu de dignité et correctement, on va dire. Hein. Cette histoire, ça commence par un garçon qui disparaît pendant la mi-temps d'un match de foot. Plus tard, un peu plus tard, il y a un cadavre d'un pédophile qui s'est installé dans les environs de Denton qui est retrouvé. Et plus tard encore, bah, il y a le cadavre d'un second enfant qui est retrouvé. Bon, vous voyez l'ambiance un peu glauque et tout. Puis bon, quand même, Frost, depuis qu'il a trouvé un partenaire qui reste avec lui depuis pas mal de temps, depuis pas mal de saisons, il est vrai que dans les premières saisons de Frost, en fait, il change très souvent de partenaire. Hein. Il passe du black au vieux qui est alcoolique. Il y a deux nanas, mais il y en a une, en fait, qui joue un double jeu et qui... fait sauter les PV, donc c'est pour ça qu'elle se fait virer.
C'est le même système que l'inspecteur Harry, où chaque seconde l'inspecteur Harry crève à la fin du film.
Ah non, c'est parce qu'il y a des problèmes, il y en a une qui se fait virer de la police, parce que bon bah voilà, enfin bon, ou alors parce qu'ils s'entendent pas, parce que bon, l'inspecteur Frost a vraiment sa méthode très personnelle de travail, et donc un mec assez difficile à suivre, faut dire. Mais là, bon bah avec son nouveau collègue, je me rappelle pas son nom, enfin, ça fait quand même pas mal de saisons, ils ont l'air d'avoir trouvé un petit peu d'osmose, hein. C'est pas mal. Dans un registre un petit peu différent, mais enfin c'est toujours du polar, hein. C'est un téléfilm de Kojak de 94, c'est le dernier jamais tourné avec Thalys Savalas, 94, des Fleurs pour Mati, avec donc déjà André Broger qui avait déjà tourné dans 4 ou 5 téléfilms auparavant. André Broger, hein, c'est le Black docteur, l'inspecteur Pemberton dans la série Homicide, et là qui joue donc le rôle de Winston Blake, et Kojak on peut également voir sur TMC. Alors là ce sera la suite de Frost demain soir, mais Kojak, la série on peut la voir tous les soirs à 19h55 sur TMC. Hein. Kojak quand même une série qui a duré dans sa première mouture, celle qu'on connaît le plus, hein, avec Saperstein, avec Stavros, avec je me rappelle pas comment ça s'appelle, Crocker, lieutenant Crocker, ouais. Et tout cela, c'est la durée de, elle a commencé en 73 jusqu'en 78. Il faut dire que Thalys Savalas, à l'époque, était un acteur de cinéma, hein, on l'a vu dans Les Douze Salopards, hein, et qu'après, ces espèces de rôles, eh ben, pour faire du pognon, en fait, il a fait comme pas mal d'acteurs relativement connus, dont un qui a tourné avec Carpenter, Lee Van Cleef. Il y a également un certain oscarisé tout récent, Clint Eastwood, qui a fait la même chose. Ils sont allés tourner en Europe pour se faire des pépettes parce qu'aux États-Unis c'était pas possible pour pas pognon, pas parole, pas. Donc on va en Italie, on va en Angleterre, on va en Espagne et on va tourner. Et il a vraiment au départ il voulait refuser le rôle, il voulait pas jouer dans des séries de télé, c'était un petit peu rabaissant et tout, il y avait un petit peu moins de pognon à la clé, et puis c'est quand même décidé, c'est dit, ouais, bon après on verra bien et tout. Et bon, ça a duré 5 saisons quand même, 120 épisodes de 52 minutes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bon, dans cette série, comme dans pas mal d'autres, on va dire, hein, qui ont duré un certain temps, qui ont un petit peu marqué leur génération, hein, eh bien, on voit apparaître des acteurs ou des guest stars, on va dire, qui sont des acteurs, comme je disais, hein, en devenir, ou des fois, bah, qui essayent de raccrocher un petit peu les wagons. Alors dans Kojak, il y en a eu quand même pas mal. Hein, j'avais pas bien repéré. La semaine dernière, j'ai vu Richard Gere avec une coupe de cheveux absolument à chier et une patte d'éléphant et tout. Que tu le crois pas, qu'il est sorti direct de Saturday Night Fever, mais enfin bon, c'est Richard Gere, hein, y a pas de problème. Mais il y a également d'autres invités vachement connus, Stacy Keach, Polanka, hein, Polanka, c'est dans le registre de la chanson, hein, Polanka, c'est le mec qui a popularisé la chanson comme d'habitude, qui a écrit la version anglaise et tout, et qui a popularisé en version anglaise, qui s'est fait reprendre par Sinatra. Il y a également Eli Wallach,
oui, Tuco, du Bande Alboté de Truant.
Voilà. Il y a également Maria Schell, sœur de Maximilian Schell, hein, Maria
qui a tourné aussi chez Carpenter dans Vampire.
Sylvester
Stallone. Ah là, qu'il est fort.
Sylvester Stallone. Il y a également Sylvester Stallone, hein, ça vous dit quelque chose. Il y a également Eric Estrada qui a tourné dans Chips, cette série excellente avec les motards. Ouais, Punch, c'est ça. Daniel G. Travanti.
Ne provoque pas, on a la bande-son là.
Daniel G. Travanti. Alors là, c'est un petit peu plus ardu. Là, c'est Captain Furio.
Ah oui.
Il y a Joan Van Ark de Côte Ouest, Véronica Hamel qui a également joué dans Captain Furio, Irène Cara quand il Fame, Irène Cara mon gars.
Non là et... c'est pas la chanson de Fame, c'est Denver le petit dinosaure que tu nous chantais là.
Il y a William Cat également, hein, qui a été à un moment l'associé de Perry Mason et qui a joué dans un film d'horreur House, assez connu quand même. Il y a également Christopher Walken, Harvey Keitel et Richard Gere, donc, que je citais juste avant. Tout cela, on peut les retrouver dans la série Kojak. Donc, le téléfilm, donc, c'est demain soir à partir de 22h35. Sinon, il y a toujours des invités, et là, de l'invité de Marc, c'est normal, on est à Las Vegas, on est dimanche après-midi à partir de 14h20, et à Las Vegas, au casino, et qui c'est qu'on invite? Jean-Claude Van Damme dans les épisodes de demain à 14h20 sur TF1.
Et ceci dit, quand même, la semaine dernière, là, celui dont tu parlais, là, qui le chanteur, comme quoi il faisait une apparition anglaise, elle était à pleurer de rire. Ouais. Elle était absolument géniale. En train de faire une reprise, donc, de Claude François, My Way,
c'est Polanka.
Oui.
Ensemble.
Oui, tout à fait.
C'est
oui.
Polanka, dont je te parle, hein, qui a également tourné dans, qui a fait comme d'habitude. C'est lui qui a popularisé la version anglaise.
Comme d'habitude.
Si. Et il est canadien, donc il connaissait la version française de toute façon. Voilà. Sinon, on a également une apparition d'une actrice qui a tourné dans une série qui a vachement marché aux États-Unis, un petit peu moins chez nous, parce que bon, faut être un petit peu branché bobo pour comprendre, faut dire. Elle apparaît dans Mon Oncle Charlie, cette excellente série. Moi, je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Ça pète pas haut, hein, mais bon, on passe un agréable moment. Quoi. Two and a Half Men, c'est la version originale avec Charlie Sheen dans le rôle principal. Et mardi prochain sur Jimmy à 20h45. Qui c'est qu'il y aura comme invité spécial? Jenna Elfman, Dharma et Greg, quand même. Sinon, je parlais de John Ritter avant, qui avait tourné dans Kojak. Eh bien, John Ritter, on le voit dans cette série qui va démarrer. C'est une sitcom, hein, vraiment de la sitcom. C'est ce qui remplace Damon. Ça passe en ce moment sur M6, hein, là, à partir de 20h05, hein, la sitcom de M6 de 20h. Là, c'est Touche pas à mes filles dans la version originale 8 Simple Rules. Donc bravo les traducteurs, bien joué les gars, c'est super.
Il y a des fois où je comprends absolument pas. Ouais,
dans laquelle, eh bien, c'est John Ritter l'interprète principal. Et en fait, cette sitcom en est à sa 5e ou 6e saison, me semble-t-il. Mais pour cette saison, il y a une date qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Le 11 septembre, le 11 septembre 2003, John Ritter meurt d'une crise cardiaque sur le tournage de cette série 8 Simple Rules. Et bon, ça a tellement choqué série. Il formait tellement une famille, il s'amusait l'équipe, les comédiens, les rédacteurs, les scénaristes, les producteurs. Ils s'entendaient vraiment très très bien. La série marche quand même pas mal, vu que c'est une sitcom qui est vue par à peu près une moyenne de 15 millions de spectateurs. Donc on va dire que c'est pas négligeable pour une sitcom, hein, s'entend. Et à la suite de ça, eh bien la série continue en intégrant dans le scénario et dans le, parce que bon, la série, ben, ça raconte l'histoire d'un père, d'une famille qui est plus ou moins nombreuse, hein, 8 au total, donc, et comment ils se démerdent dans la vie, tout simplement. Il y a d'autres sitcoms qui ont déjà abordé le sujet, mais celle-là est relativement intéressante, avec John Ritter, qui est un acteur comique, qui quand même, est assez bon. Donc, à la suite de ça, eh bien, on a intégré dans le scénario, et dans la suite de cette sitcom, eh bien, la mort du père, justement, avec un remplacement, peut-être, très bientôt, et surtout, dans les nouvelles saisons, l'apparition d'une nana qu'on connaît bien, justement, dans le monde de la sitcom, et surtout de la sitcom bien trash, à savoir Cathy Sagal qui jouait le rôle de Peggy Bundy, la femme de Hal, et qui donc arrive dans cette série Touche pas à mes films. Mais non, pour l'instant là sur M6 on est un petit peu en retard, donc, et ce sera à partir de vendredi prochain sur M6, donc Touche pas à mes filles. Sinon, un petit téléfilm avec Michael Dudikoff.
Ouais.
C'est mardi prochain sur M6 à 23h10. Et là, justement, il va vous surprendre, mon cher Michael, car il joue dans Chronologie d'un crime, un film de Sinéji Fury qui a fait de la série B jusqu'à la série Z son image de marque. Mais il a vraiment fait l'aigle de fer du numéro 1 jusqu'au numéro 4, je crois. Et plein d'autres trucs, avec Dudikoff, bien entendu. Là, il s'agit d'un film de 98 avec Marley Matlin, qui n'est pas n'importe qui, vu qu'elle a un rôle récurrent dans The West Wing. Hein, c'est celle qui joue le rôle de la sourde, à un moment, qui se fait draguer. Elle couche avec son patron, alors c'est pas possible. Michael Dudikoff, en fait, c'est pas du tout une histoire de baston. Hein, c'est une histoire d'adultère et de mari trompé et d'assassinat. Voilà, tout simplement, on s'aperçoit que Michael Dudikoff est capable de faire autre chose que de se servir de ses bras, de ses muscles. Il faut dire que c'est un expert en arts martiaux depuis vachement, vachement plus longtemps, en fait, que Jet Li, que Jean-Claude Van Damme et tout, qui ne savait même pas encore se servir de quoi que ce soit, alors que Michael était déjà un expert. Ça va faire plaisir. Là, ça va faire plaisir à présent. À Xavier, MCM, merci. Qui diffuse un spécial Daft Punk. Et, je suis tellement con, j'étais tellement pressé, tellement merdé en préparant cette émission que j'ai pas noté le jour, c'est con pour toi.
J'ai le DVD, t'inquiète.
C'est la semaine prochaine avec le film, donc à 20h45, Interstellar 5555, suivi à 22h de tous les clips de Daft Punk. Il y en a pour trois quarts d'heure.
C'est où ça?
Vous êtes content?
C'est sur MCM, c'est la semaine prochaine. Et en fait, MTV Angleterre l'a déjà fait, ça a été diffusé en plus sur MTV 2, donc MCM s'est fait griller.
Yo.
C'est bête. Avec le nouveau clip d'ailleurs qui est Robot Rock, où ils sont redevenus à quelque chose de beaucoup plus soft d'ailleurs.
Enfin, leur album, c'est de la merde quand même.
Oh, il est moins effectivement brillant que le précédent, ça c'est clair. Voilà, ça a
c'est
cassé,
dit, hein. C'est dit, hein.
Ça a cassé, c'est en ça direct. A été dit, hein.
Et là, à la télé la semaine prochaine, ce qui peut être intéressant si vous êtes un fou furieux de cinéma, c'est les nombreuses spéciales qu'il y a, hein, proposées par les différentes chaînes. Alors déjà, du Verhoeven, avec demain soir, il y a Starship Trooper. Sur TF1, alors j'espère qu'on verra pas la version coupée. C'est à 22h40. Ils en sont capables, hein, attention les gars, hein, même à 22h40, hein, c'est des enfoirés. Avec Casper Van Diem, qui c'est un rôle, le rôle principal de Starship Trooper, hein, de Casper Van Diem, ça lui a pas porté chance parce qu'après on l'a revu dans des daubes.
Si, on l'a vu dans Tarzan.
Dans Tarzan. Mais que dans des daubes, dans les séries B, hein, vraiment. Il y a également Dina Meyer, il y a également Denise Richards, qui est Madame Charlie Sheen. Madame Charlie Sheen, et qui vient de le quitter alors qu'elle attend, Charlie Sheen vient de la quitter alors qu'ils attendent un deuxième petit STVS. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai vu Charlie Sheen la dernière fois, et il a dit, faut pas dire STVS, il faut dire STVS. Voilà, en version originale. Il y a également Jack Buzzet, le fils de Gary, dans Starship Trooper, et
Clancy Brown.
Ouais, Clancy Brown et tous les autres, et Michael Ironside, quand même, franchement, quoi. Tout ça, donc, c'est demain soir de Starship Trooper, mais il y a également du Verhoeven la semaine prochaine, jeudi prochain, avec une spéciale Robocop. On peut startiner les trois à la suite carrément sur Ciné Cinéma Frisson jeudi prochain. Le 1, Robocop, à partir de 20h45. Le Robocop 2 à 22h25, celui-là il est fait par Kershner.
Sur un scénario de Frank Miller dont on a parlé la semaine dernière.
Voilà, c'est ça.
Tu vois sous les yeux d'ailleurs.
Voilà, hein, c'est ce Robocop là, Dark Delta City, qui est vraiment excellent en plus. Hein, on n'a pas eu le temps de faire une après Lision, un truc. Ça m'a tué. Ça m'a vraiment tué.
Alias, hein. c'est
ça,
fou.
Ça m'a rappelé Watchmen à fond les manettes.
C'est pas la série, c'est la BD.
Ouais, ça a rien à voir. ça, on parle vraiment... de super-héros, on parle
bon,
pas de...
Et Robocop 3, donc, par Fred Decker, où il n'y a plus Peter Weller dans le rôle de truc, mais c'est Robert Dorr qui le remplace. Sinon, comme il a été oscarisé, et qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, il était temps et tout », enfin bon, voilà, Clint Eastwood, eh bien, il y a une spéciale Clint Eastwood. Lundi sur 13e rue à 20h50, le meilleur Inspecteur Harry, c'est le retour de l'Inspecteur Harry, film de 83, où c'est la nana, sa femme, qui est la nana qui joue le rôle du meurtrier. Hein, vous rappelez la scène au début tout, quoi, où elle va pour tailler une pipe à un mec et tout, et en fait elle lui explose les roubines. Excellent, excellent. En fait, c'est parce qu'elle a été violée quand elle était plus jeune. Voilà, c'est ça. Hein, c'est le retour de l'Inspecteur Harry. Celui-là est vraiment très très bien, vraiment très bien.
Il est fort. Ouais.
Suivi de son premier film en tant que réalisateur, Play Misty for Me, frisson dans la nuit avec Jessica Walter, Donna Mills. Et il y a également un autre film où on retrouve mari et femme, c'est L'Épreuve de Force, qui passe sur RTL9 mercredi prochain, 22h35, hein, avec Sandra Locchi, donc son ex, hein, parce que depuis, il y en a une autre.
Avec la fin dans le bus qui se fait canarder par les flics.
Voilà, voilà, voilà.
Spoiler!
Ouais,
c'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, il y a également.
T'es content, hein, t'as cassé la fin, toi. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Non, sinon, il y a également encore du spécial, et là, c'est pas du Hawks, c'est du Walsh, avec du polar. Walsh est plus connu pour ses westerns, mais là, eh bien, il s'agit de deux polars de Walsh, et lui est polar, et Walsh, quand il fait du polar, ben, vas-y, mon gars, accroche-toi, tu peux toujours courir. Tout d'abord, c'est un polar de 39, hein, qui fait partie du sommet du Gotha, là, c'est le top, hein, quand même. Roaring Twenties, les fantastiques années 20 avec Bogart et James Cagney ensemble.
Yes.
Suivi à 22h et des poussières de du meilleur polar, hein, qui soit peut-être, quoi, dans le monde. L'enfer est à lui. White Heat de 49 avec James Cagney, Virginia Mayo, la réplique fameuse Top of the World, ma Top of the World. Qui a été reprise par un enfoiré après, mais enfin bon, faut voir James Cagney, c'est vachement plus prenant quand même. Dégomme le mec à travers le coffre de la bagnole, enfin bon, c'était en 49. Hein. Je veux dire que ça a des potes quand même, tout ça. Donc c'est Ciné Polar jeudi prochain. Et sinon, il y a une spéciale Peckinpah, et ça c'est pas sur TPS Ciné Étoile. Et là, on est vachement content. Je suis moins content parce que ces enfoirés, ils nous passent la Horde Sauvage, mais dans la version courte, il y a une autre version qui a été refaite après, qui avait été remontée, qui est un peu plus long, qui fait un peu plus de 3 heures et qui est vraiment bien dépotente, ouais. Qui rajoute vraiment pas mal de les petits trucs qui ont été rajoutés vraiment servent à quelque chose. Et ça, ça fait plaisir. On présente plus la Horde Sauvage. De toute façon, bon bah, hein, c'est pas la peine. Hein. Il y a d'autres films un peu moins connus.
On va préciser, la Horde Sauvage, c'est du John Woo avant l'heure, puisque c'était les années fin des années 60, non?
Ouais, c'est ça. Ouais, Western, 69. Ouais. En 60. Donc, ouais. Et suivi à 23h20, donc c'est vendredi prochain, d'un documentaire qui s'appelle Bloody Sam, les westerns de Sam Peckinpah. Il y a à ce sujet, eh bien, TPS Ciné Étoile qui fait un petit peu une thématique, bah, justement sur ces westerns de Peckinpah, avec la diffusion de Coup de Feu dans la Sierra. Ça, c'est un des premiers, hein, c'est le début des années 60, diffusé mardi prochain à 8h25 du mat, ou jeudi à 17h55. Ok, d'accord. Il y a aussi le Pat Garrett qui avait été sujet à beaucoup de polémiques parce que lui, il avait fait une version, mais les studios l'ont coupé comme c'est pas permis, que lui, il voulait même pas que son nom y figure à l'affiche, tellement il était dégoûté de la vie. Et pourtant, le film a fait c'est le film qui a le plus marché, c'est le film qui l'a fait connaître du grand public, c'est le film qui l'a un petit peu apporté la renommée, une renommée qu'il voulait pas du tout, de toute façon, Peckinpah, hein, c'était vraiment un gros enculé de première, donc il n'avait rien à foutre de ses conneries. Et Pat Garrett est donc diffusé dans les deux versions sur TPS Ciné Étoile. Jeudi à 14h25, c'est la version longue, et lundi prochain à 9h du mat, la version courte, la version studio. Donc il y a également un nommé Cab Hog, ça c'est un autre western un peu plus méconnu de Peckinpah, qui passera mardi prochain toujours sur TPS Ciné Étoile à 15h35, ou alors vendredi à 11h30 du matin. Voilà.
Merci, on fait très vite parce qu'il y a ceux qui nous écoutent sur Onet qui vont manquer la fin de l'enregistrement parce qu'on est en limite de bande. Donc c'était le supplément week-end du 19 mars sur Radio FMR. Et pour ceux qui ont manqué le début, le résumé vous est présenté par Thomas.
Alors on va comptabiliser une heure de mix de la part du professionnel Xavier. On a eu 3 spoilers et un cassage en règle, c'était sur Daft Punk.
Voilà. vite, vite.
Voilà, c'est tout.
C'est tout, c'est ouais. Ouais, bah, à part ça, on a débordé de 19 minutes. Donc, je vous laisse, oui, s'il vous plaît. Donc, rendez-vous la semaine prochaine à partir de midi sur Radio FMR.
La semaine prochaine avec un spécial Noël Buck.
Oui, exact. En plus, voilà. Ceci dit, du sport vient de me rejoindre de l'autre côté jusqu'à 15h, puisque ce sera Zarma Farai. Ciao.